7 écho.
Bienvenue à tous. Notre débat va porter aujourd'hui sur le secteur de l'assurance. Comment se porte-t-il? Quelle est sa santé en 2016? Est-il en difficulté? AXA vient en tout cas d'annoncer cette semaine la perte de 650 emplois sur 2 ans. Le lendemain, le patron d'Ethias était remercié par son conseil d'administration. La Banque nationale étudie aujourd'hui la possibilité d'un rapprochement entre Ethias et la banque Belfius, parce qu'Ethias a besoin de fonds propres. Alors, nous allons parler ce matin donc du secteur de l'assurance avec deux invités. Pierre De Volder, tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de finance à l'UCL. Et puis à vos côtés, Pierre-Nicolas Schwab, bonjour.
Bonjour, Olivier.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes expert en big data et par ailleurs chercheur à l'ULB. Michel Gasset est également avec moi. Bonjour, Michel.
Bonjour.
Merci à vous de nous suivre pour ce débat. Alors, le secteur de l'assurance, Pierre De Volder, démarrer de manière assez générale, qu'est-ce qui se passe finalement? Est-ce que c'est un secteur en difficulté à ce point-là aujourd'hui?
Il faut comprendre pour nos auditeurs que la mécanique de l'assurance est basée sur un principe relativement simple. L'assureur récolte des primes pour couvrir des risques et puis paye après avec ses primes des sinistres. Et donc, il y a toujours un délai de temps plus ou moins long qui se produit entre la collecte de primes et le paiement de ces sinistres. Et donc, il va être amené à placer ces montants sur les marchés financiers. Donc un assureur a un peu finalement une double fonction, une fonction de couverture des risques. Vous avez un accident de voiture, votre maison brûle, l'assureur est là pour vous indemniser. Mais l'assureur a aussi un rôle sur les marchés financiers puisqu'il place les primes sur les marchés financiers. Donc évidemment, en fonction de la santé des marchés financiers et indépendamment de toute technique d'assurance, il va être influencé dans sa rentabilité et dans sa profitabilité parce qu'il peut obtenir des marchés financiers.
Et le problème, c'est que les taux sont particulièrement bas.
Il n'y a pas de miracle. Dans quoi l'assureur peut-il alors investir? Un petit peu comme tout le monde, dans des obligations. Vous savez tous comme moi que les taux d'intérêt sont en train de devenir nuls, si pas négatifs, de manière tendancielle. Il peut investir dans des actions, mais vous savez tous comme moi que la bourse, ce n'est pas nécessairement non plus source de sécurité, alors que l'assurance est pourtant normalement un langage de sécurité. Les gens attendent à ce que il y ait un filet suffisant pour eux. Et donc, au fond, aujourd'hui, les assureurs sont confrontés un peu à une difficulté qui est qu'au fond, indépendamment de leur core business, comme on dit, de couverture de risque, ils n'ont plus la possibilité d'obtenir des marchés financiers, de leurs investissements, la rentabilité qu'ils pouvaient avoir précédemment. Alors, cette réalité est assez différente selon que l'on parle d'une assurance automobile ou d'une assurance vie.
Est-ce que, de manière générale, Pierre De Volder, les assureurs ont promis des choses qu'ils ne peuvent plus tenir aujourd'hui? Il y a eu des rendements.
Donc il faut faire la distinction, je dirais, entre ce qu'on appelle généralement, les techniciens appellent l'assurance dommage, donc l'assurance de votre voiture, l'assurance de votre maison, dans lequel l'assureur, effectivement, voit ses rendements financiers un peu diminuer, mais vous comprenez tous que les délais entre le paiement de votre prime et votre accident de voiture ne se comptent pas en années. Donc le point est important, bien entendu, mais par contre, en assurance vie, comme vous le dites, là, l'assurance vie est un produit qui a une dimension financière très importante, parce que le citoyen qui investit en assurance vie, il prépare sa pension. Donc finalement, c'est en grosse partie un produit qui ressemble à de nombreux aspects avec un produit bancaire. Et donc, la technique de l'assurance, et ça c'est important que nos éditeurs comprennent, la technique de l'assurance vie est, elle, basée sur des promesses de garantie de taux. Et donc, des clients ont souscrit des contrats il y a 10-15 ans pour des durées très longues. Vous aviez 30 ans en 1990, vous souscriviez un contrat, en 1990, vous souscrivez un contrat de durée 35 ans, vous voyez jusqu'où vous allez aller. Et à ce moment-là, l'assureur vous promettait du 4% sur toutes vos primes futures.
Ce qui est évidemment plus tenable aujourd'hui.
Ce qui est évidemment très difficilement tenable aujourd'hui.
Mais toutes les compagnies d'assurance n'ont pas proposé des produits garantis à vie. Les deux compagnies dont on a parlé cette semaine, c'est Ethias, bien entendu, mais aussi AXA. Est-ce que ce sont les deux seules sociétés d'assurance qui ont mis le doigt dans cet engrenage-là? Ou bien y en a-t-il d'autres? Et faut-il s'attendre à d'autres accidents dans les mois qui viennent?
Je dirais que ce sont sans doute deux compagnies d'assurance qui ont, l'une avec le produit First dont on a beaucoup parlé et AXA avec notamment son produit Crest dont on a aussi beaucoup parlé, ce sont deux compagnies d'assurance qui ont été très loin dans leurs promesses. Alors vous savez, c'est toujours un peu quand vous allez très très loin dans la promesse, vous êtes les premiers à recevoir, lorsque la marée recule, ce sont les gens, les premiers qui sont découverts. Donc je dirais, les compagnies dont on parle aujourd'hui sont sans doute ont peut-être développé des produits plus agressifs que les autres. Maintenant, ceci dit, tout le secteur de l'assurance vie a été construit sur des produits avec des garanties de taux sur des primes futures. Donc, je veux dire, ces deux acteurs ne sont pas des exceptions, n'ont pas lancé des choses que personne d'autre ne fait. Tout ce qu'on pourrait dire, c'est qu'ils ont peut-être,
si vous me passez, plus loin.
Un peu plus loin dans la promesse. Mais cette promesse existe de manière claire dans les portefeuilles de tous les assureurs-vie en Belgique.
Un des éléments qui ont été mis en évidence par AXA en annonçant cette possible restructuration, ces possibles licenciements, c'est la nécessité de dégager au fond des moyens financiers, et je me tourne vers Pierre-Nicolas Schwab, pour financer, on va dire les choses simplement, la transition digitale. Alors, ça veut dire quoi, au fond, la transition digitale pour une compagnie d'assurance aujourd'hui ?
Aujourd'hui, la transition digitale pour une assurance, ça vise à individualiser les risques, c'est-à-dire à se servir d'outils digitaux, d'outils numériques, pour évaluer de manière individuelle le risque que représente chaque objet, chaque assuré. Or, jusqu'à présent, jusqu'à l'ère de l'Internet de l'objet ou du Big Data, les risques étaient évalués par des actuaires de manière relativement globale, et c'était sur la base du risque qui était évalué qu'on décidait pas de prendre quelqu'un dans son portefeuille, d'assurer le risque, et on décide également de la prime. Aujourd'hui, tout ça change. Donc, la mutualisation du risque, qui était le principe sous-jacent des assurances, tend à s'effacer au profit d'une individualisation du risque. C'est-à-dire que chacun, à la fin, est responsable de son risque. Ce qui, en théorie, n'est pas quelque chose de très mauvais. Maintenant, dans la pratique, ça pose un certain nombre de questions, notamment, est-ce que tout le monde est en mesure d'assumer le risque qu'il représente ? Est-ce que tout le monde est en mesure d'influencer le risque qu'il représente ? C'est sans doute vrai pour une conduite automobile, c'est beaucoup moins vrai pour des problèmes de santé.
Alors précisément, est-ce que c'est vraiment l'avenir, ça, l'individualisation ? Et donc, mettre à mal, vous l'avez dit, le principe de solidarité, finalement, est-ce qu'on va pouvoir, comme ça, suivre chaque assuré en disant, voilà, vous conduisez trop vite, voilà, vous ne marchez pas assez sur une journée, c'est ça qui arrive, doucement.
Alors, je pense qu'il faut distinguer l'aspect théorique, donc la perspective théorique et la perspective pratique. En pratique, c'est sans doute un petit peu utopique de faire quelque chose de ce genre-là. On pourrait, si tout le monde adhérait au système, le suivre, mesurer ses battements cardiaques, sa pression artérielle, que sais-je, et corréler tous ces facteurs à un profil de risque. Dans la théorie, ça pose un énorme problème, c'est celui de la mutualisation du risque, et comme je le disais tout à l'heure, de la possibilité de tout un chacun d'influencer, d'impacter le profil qu'il a éventuellement hérité de manière génétique. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec la possibilité de moduler les primes en fonction de la conduite. Je le suis beaucoup moins lorsqu'il s'agit de moduler les primes en fonction d'un profil médical. Est-ce que c'est l'avenir ? Je pense que du point de vue de l'assurance qui est devenue ou qui est passée d'un statut d'entreprise qui couvre les risques à celui d'une entreprise qui rapporte des dividendes, c'est effectivement tout à fait l'avenir puisqu'il faut d'une part augmenter les revenus et d'autre part diminuer les coûts. Or, les coûts sont représentés par quoi ? Par des risques.
Pierre de Volder, est-ce que vous entrez dans cette logique que vient de décrire Pierre-Nicolas Schwab ? Et est-ce que vous y voyez peut-être pour les assurances, pour les compagnies d'assurance, le moyen de remédier à ces problèmes de taux d'intérêt qui les privent de revenus importants ? Il faut rappeler qu'il y a 15 ou 20 ans, quand les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés, les produits financiers de certaines compagnies d'assurance leur permettaient de combler les trous dans une série de produits assurance auto, par exemple, ou d'autres.
Oui, je partage en grande partie ce qui a été dit. Il faut savoir que dans la digitalisation du secteur de l'assurance, il y a un peu deux dimensions. Il y a effectivement une dimension qui concerne la construction des tarifs et l'appréciation des risques, mais il y a aussi toute une partie de la digitalisation qui concerne, je dirais, l'optimisation des procédures de gestion. On a tous des contrats d'assurance, on sait tous que c'est parfois compliqué, lent, etc. Et donc derrière ça se cache aussi tout un essai par les assureurs de simplifier les filières, d'accélérer les filières, de réduire les frais de gestion finalement. Et donc, si on a moins de revenus financiers, il n'est pas totalement idiot d'essayer aussi de diminuer ses coûts de transaction. Et donc, derrière la digitalisation, derrière toutes les procédures, on a tous un PC banking, par exemple pour les banques, c'est devenu quelque chose. Les banques qui ont introduit un PC banking, Je veux dire, les clients sont très contents parce que c'est quand même plus facile chez vous avec votre ordinateur de faire des transactions plutôt que de devoir aller à l'agence. Mais pour l'agence bancaire, c'est aussi une formidable réduction de ses coûts, puisque ça permet de ne plus avoir autant d'agences. Je dirais que l'assurance est un peu en retard là-dessus. Mm-hmm. L'assurance n'est pas à l'heure du PC banking, pour faire quelque chose de simple que tout le monde peut comprendre. Vous n'avez pas quelque part un endroit où vous pouvez, vous, directement, voilà, avoir une vision et accélérer. Donc, je dirais la digitalisation, je dirais qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension de modernisation, finalement, des modes de gestion qui permettront d'aller plus vite, d'avoir moins de paperasserie, d'avoir une automatisation croissante. Et puis, effectivement, comme on l'a dit, derrière la digitalisation, c'est aussi le métier même de perception des risques. Et là, je partage assez fort ce qui a été dit. Moi, personnellement, en tant qu'actuaire et en tant que statisticien, d'ailleurs, on peut montrer que le big data a ses limites et qu'on finit par faire des choses qui ne sont même plus exactes, parce qu'on est au-delà de seuil de signification. Et donc, à vouloir trop bien faire, on fait mal. Et donc là, effectivement, il y a un défi important de l'assurance qui est de garder quand même la solidarité, qui est quand même sa vertu de base.
Alors, il y a tout de même un autre écho, puisqu'on parlait d'AXA, qui met en avant la digitalisation pour parler de perte d'emploi. Je lisais cette semaine une étude du Boston Consulting Group qui disait, lui, qu'investir dans la numérisation permettrait, à terme, d'ici 2020, de créer 300 000 emplois. Pierre-Nicolas Schwab, est-ce que finalement, cette digitalisation, elle crée de l'emploi ou elle en détruit ?
Alors, tout dépend dans quel secteur. Il y a des secteurs qui ont le droit, d'un point de vue réglementaire, d'évoluer vers des business models ou vers des secteurs d'activité qui ne sont pas les leurs de manière historique. Je pense par exemple à La Poste. On voit que Bipost en Belgique et La Poste en France font énormément d'essais, de tests au niveau numérique pour sortir du business de la logistique et de la distribution de courriers. Ils vont investir des domaines comme l'impression en 3D ou même des partenariats avec des assureurs pour photographier des sinistres et participer aussi à ce processus de numérisation. Je ne suis pas sûr que les 300 000 emplois qui sont promis par le Boston Consulting Group soient tous dans l'assurance. D'ailleurs, on peut noter un petit peu l'ironie sous-jacente. Il y a quelques années, on nous disait il faut aller dans les services, c'est là que les emplois sont les plus pérennes. Et aujourd'hui, on voit que finalement, c'est peut-être ceux-là qui sont les plus faciles à rayer de la carte.
Vous connaissez bien le secteur des assurances aussi, Pierre-Nicolas Schwab. Vous avez eu l'occasion de voir sur le terrain une série de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, cette numérisation, les deux étages, j'allais dire, de cette numérisation, d'une part les processus et d'autre part les nouvelles applications liées au big data, est-ce que vous avez l'impression que les fondements qui se trouvent derrière ces projets sont solides ? Est-ce qu'ils y croient eux-mêmes dans les compagnies d'assurance aujourd'hui ? Et est-ce que technologiquement, ils sont en mesure d'exploiter les données qui sortiraient des capteurs placés dans votre voiture, par exemple ?
C'est une bonne question. Je pense qu'ils y croient tous en termes marketing, parce que pour les processus, c'est très important. Les applications mobiles qui sont lancées pour monitorer, pour regarder comment est-ce qu'un conducteur conduit, sont un outil marketing. Par contre, d'un point de vue pratique et d'un point de vue statistique, on se rend compte que, d'une part, ces applications ne sont pas assez précises pour permettre de tirer des conclusions statistiques et des corrélations par rapport à une typologie de conducteur en particulier. Et même les appareils les plus précis, qui sont ces fameuses boîtes noires ou smart box qu'on met dans les véhicules, ne livrent pas aujourd'hui d'informations qui sont suffisamment précises pour permettre une représentativité statistique.
Donc c'est de la communication, à ce stade en tout cas, surtout ?
Mon point de vue, c'est que c'est surtout de la communication. Il y a, par exemple, des assureurs anglais qui communiquent très très fort là-dessus, sur ces applications. À la fin, une application dépend aussi de l'appareil sur lequel vous l'installez, c'est-à-dire un smartphone. Il faut savoir que les GPS qui sont installés sur les smartphones ou les accéléromètres ont des précisions qui ne sont pas celles des smartbox, et que par conséquent, lorsqu'il s'agit par exemple de reconstituer un accident qui a eu lieu, ces accéléromètres et ces GPS ne sont d'aucune utilité. Donc c'est vraiment un instrument marketing. Mais là encore, on y croit très fort parce qu'aujourd'hui, tout le monde est assuré. Il faut se différencier par ses processus et par ses outils pour capter de nouveaux clients. Il faut montrer qu'on est moderne. Et c'est aussi cette captation de nouveaux clients qui va permettre de générer de nouveaux revenus qu'ensuite on fait fructifier en diminuant les coûts et les risques.